Huitième jour avec Claire Bressolet. Huitième jour avec Claire Bressolet.
Le huitième jour, quelque chose qui recommence et qui s'ouvre surtout sur un ailleurs. Alors je vous propose pour cette émission d'écouter du Jean-Sébastien Bach. Toccata, adagio et fugue, un triptyque. Toccata veut dire sonner, faire sonner l'orgue, oui. Mais avec un triptyque, il y a des chances que ça veut dire autre chose. Peut-être une référence à la Trinité. Écoutons. Oui, on a le début de cette toccata. Une seule voix, très brillante, coupée, comme si on entrait dans une création. Un processus de création. On va entendre le pédalier qui lui va montrer comment la création engendre le thème lui-même de la pièce, qui est un thème avec un rythme pointé, c'est-à-dire comme une danse, quelque chose qui avance, qui pousse. Vous allez entendre combien c'est joyeux. Et voilà comment Dieu peut créer la création. Vous l'avez compris ? Quelque chose qui est incoatif et qui part des aigus, qui va descendre. On est ensuite au fond du fond avec ce pédalier splendide, un trait superbe. Et puis ensuite, une profusion, une abondance, quelque chose qui avance avec ce rythme pointé, cette joie, cette gaieté. Qu'est-ce qu'on entend dans la deuxième pièce ? L'intitulée « Toccata, adagio et fugue » nous fait pressentir quelque chose de plus recueilli. La forme A, B, A', dans les tempi, dans le caractère, c'est souvent ce qu'on rencontre. Alors on va avoir quelque chose qui évoque un trio, comme s'il y avait trois instruments, une basse très régulière en croche, ensuite une main gauche très régulière elle aussi, et puis le chant à la main droite, comme si on avait un violon, un hautbois et puis un violoncelle. Un petit trio instrumental qui renvoie aussi à une autre forme d'écriture chez Jean-Sébastien Bach, la sonate en trio. Il y a 6 sonates en trio pour orgue, 3 voix qui dialoguent, qui ont vraiment un rôle propre. Le pédalier n'est pas simplement une ponctuation de l'harmonie. Il s'agit vraiment d'un contrepoint. Le contrepoint, c'est une écriture qui associe à la fois la verticalité de l'harmonie et l'horizontalité du sens, de la linéarité, de la direction. Donc ici, un adagio, mais il a 2 parties. Comme si subitement, on ouvrait sur une contemplation. Écoutons. Bach installe donc cette régularité. C'est un crime, hein, mais nous n'avons que 8 minutes. Vous l'écouterez chez vous. On installe ça pendant une page, un peu plus d'une page, une page et demie. Peut-être même avec des reprises, on ne sait pas trop s'il faut les faire ou pas faire. Et puis subitement, la musique semble se déliter dans un ailleurs, un autre espace-temps, celui de l'intériorité, celui précisément du 8e jour. Bach est luthérien. Bach, il y a réfléchi, il a écrit des passions, des cantates. Ce n'est pas rien que le sauveur, que le pécheur racheté, le pécheur vivant, debout. Écoutons le tout début de cette mise en contemplation. ligne à la fin de ce Magnificat Adagio, comme pour nous dire « l'harmonie va s'intérioriser, ce ne dit pas se déliter, elle va faire des dissonances, une lenteur, une sorte de magma créateur à la suite du Père. » Donc vous m'avez comprise, vous me voyez venir, il me semble qu'on pourrait, s'il fallait faire une musique figurative, associer l'adagio au fils. Le fils qui va s'ouvrir en contemplation. Alors vous allez me dire, bon ben voilà, la fugue va être l'Esprit Saint, quelque chose de sautillant, quelque chose de ternaire. Alors qu'est-ce qu'une fugue ? Une fugue, c'est l'entrée de plusieurs thèmes à des temps différents. On fait rentrer une voix, puis une deuxième plus tard, et l'autre voix continue. Quatre voix qui vont entrer de quatre manières différentes et qui vont ensuite dialoguer, donc un développement, et puis se terminer. Ici, on a une véritable danse, quelque chose de très gai. Écoutons. Vous avez entendu ? Trois fois. Je fais ici une petite remarque sur le ternaire. On est en ternaire, point de vue de la mesure, et on est aussi dans une rhétorique qui utilise quoi ? La référence de la période dactylique. Dactylon en grec veut dire le doigt. Vous avez trois phalanges. Donc le ternaire est beaucoup plus équilibrant, parce qu'il tourne, que le binaire. Je vous dis, la table et la chaise sont dans la pièce. Bon, ma phrase est correcte, mais un peu plate. Je vous dis, la table, la chaise et des couteaux argentés sont dans la pièce. Des couteaux argentés, j'ai mis un adjectif en plus, j'ai fait une période dactylique, c'est-à-dire court, court, long, puisque nous avons une troisième phalange qui est plus longue que les deux premières. C'est l'idéal rhétorique. Bach le respecte. Il y a donc une rhétorique de cette fugue qui est très sautillante, très gaie, très fluide. Elle peut évoquer effectivement quelque chose qui renverrait à l'esprit, quelque chose de labile. Une sorte de péricorèse. Oh, quel est ce mot savant ? La péricorèse désigne la danse des trois hypostases trinitaires, en théologie, en patrologie. Donc les trois hypostases ne seraient pas statiques, mais dans leur relation, elles exprimeraient le mouvement dansant, d'une rotation, d'un échange. Péricorène, la danse des trois hypostases. Eh bien, j'aime à penser, sans tomber dans une lecture référenciée, didactique, pédagogique, que cette lecture peut animer cette pièce. Je répète, Toccata, Adagio et Fugue en Do majeur, BWV 564 de Jean-Sébastien Bach pour orgue. Écoutez-la chez vous, rêvez. Mais ça nous permet de dire que chez Bach, le huitième jour fait que la différence entre musique sacrée et musique profane n'existe pas. Quand on est un grand musicien, on est tout de suite à la source. Thank you.